J'ai pensé lire quelques versets, quelques lignes de l'Écriture sainte du Nouveau Testament avant d'aborder le sujet qui m'est attribué. Je vous propose de lire le discours que saint Paul a fait à Athènes lors de sa première visite dans cette ville. Qui dit Athènes pense philosophie. Je signale d'ailleurs que je suis prof de philo par raccro. C'est un cours un peu marginal quand même dans les études de théologie. Et mon domaine spécifique, c'est plutôt la théologie. Et qui dit Athènes dit philosophie, mais qui dit Athènes pense aussi merveille de l'art antique. Et il me semble par conséquent que le texte que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 17 est un texte que nous pouvons bien placer comme au début de notre travail de réflexion ensemble. Je lis le préambule de l'auteur Saint-Luc avant de lire le discours lui-même. Livre des Actes, chapitre 17, verset 16. Tandis que Paul attendait ses compagnons à Athènes, il sentait brûler en lui l'indignation au spectacle de cette ville remplie d'idoles. Il s'entretenait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adoraient Dieu, et sur l'agora tous les jours avec les passants. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'abordaient. Les uns disaient « Que peut bien vouloir dire ce perroquet ?» D'autres « On dirait un prêcheur de divinités étrangères, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. » Ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Tous les étrangers, en effet, et les Athéniens n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Debout, au milieu de l'aréopage, Paul dit alors « Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous vie, souffle et toute chose. S'il a fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain issu d'un principe unique, s'il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, c'était afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre si possible comme à tâtons et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denis l'aréopagite fut du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. J'aurai l'occasion de faire quelques références à ce texte sans prétendre du tout vous en faire une étude systématique. Je crois qu'il me faut préciser, au-delà de l'introduction de Raymond Matisse, en quelle capacité je parle, en quelle incapacité. Je ne suis pas artiste, bien que j'aime les artistes. Je ne suis pas critique d'art ou philosophe de l'esthétique. bien que je lise avec intérêt parfois certaines des interprétations que les critiques produisent, que j'admire leur brio, avec un brin de méfiance quand même, en me demandant parfois s'ils ne font pas plus d'étincelles qui n'apportent de véritable lumière sur les œuvres en cause. Mais de toute façon, je me garde de les imiter, je n'en suis pas capable. C'est comme chrétien et comme théologien que je veux essayer d'introduire un entretien sur les perspectives chrétiennes sur l'art. Il s'agit de situer l'entreprise artistique sous l'éclairage de la révélation biblique. Quand je parle de perspectives chrétiennes, en effet, il s'agit pour moi nécessairement de perspectives que la Bible suggère et authentifie. Le seul christianisme qui mérite ce nom, me semble, le christianisme qui est conforme à son document originel. Et en fait, je résumerai les conclusions que j'ai personnellement tirées d'un séminaire qui a eu lieu dans notre faculté à Vaux-sur-Seine. J'avais imprudemment, je pense, proposé aux étudiants un séminaire sous le titre « Art et vie chrétienne » pendant un semestre. Heureusement, Sassandra est venu au secours de mon imprudence. Il a bien voulu participer à ce séminaire et je pense que le travail de tous, car il s'agit surtout d'exposés d'étudiants et d'entretiens à leurs propos, a permis de tirer quelques conclusions positives des séances que nous avons eues ensemble. Alors ce que je vais vous dire, c'est un peu ce que j'ai retiré pour mon compte de ce travail. Le premier point que je voudrais marquer correspond à une thèse qu'on pourrait dire préalable. C'est qu'il y a des perspectives chrétiennes sur l'art. La pensée même de perspective chrétienne dans ce domaine peut surprendre certains qui sont habitués à cloisonner les secteurs, à séparer la foi de la culture. Et quelques-uns d'ailleurs ont pu fréquenter des chrétiens sans s'apercevoir qu'ils avaient un point de vue propre sur l'entreprise artistique. Alors je crois que je peux affirmer qu'il doit y avoir perspective spécifiquement chrétienne sur ce qu'on appelle l'art. Le christianisme n'est pas une vision du monde, une conception de la réalité, pas plus qu'il n'est une morale, mais il a une vision du monde, une conception de la vie, comme il a une morale. Et il est aussi dangereux et mutilant d'ignorer l'une que d'ignorer l'autre de ces deux propositions. Il n'est pas, mais il a. On altère, je dirais, l'essence même du christianisme biblique en tout cas, si on ignore la présence d'une vision du monde, ou bien si on réduit le christianisme à cette vision. Alors le christianisme n'est pas une vision du monde. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la proclamation d'une nouvelle. Vous le savez, le mot évangile veut dire grande et bonne nouvelle. Le christianisme, c'est l'annonce que Dieu est intervenu d'une manière décisive dans l'histoire. Et en cela, le christianisme est radicalement original. Il n'y a aucune religion qui mette au centre un événement précis, daté, spatio-temporel, comme le fait le message chrétien. Vous le savez, le credo mentionne Ponce Pilate, le gouverneur romain en Palestine. Il ne s'agit pas de vérité religieuse, entre guillemets, comme s'il y avait un domaine séparé, qui serait celui de la religion. C'est en pleine histoire, datée, politique, l'histoire des gouverneurs romains en Palestine, que se situe l'événement qui fait la proclamation foncière, fondamentale du christianisme. C'est le caractère historique de son message et du salut que le christianisme propose, qui fait son originalité, la plus visible au moins. Je pense d'ailleurs qu'on peut souligner tout de suite que cette historicité est solidaire d'une dénonciation unique du mal. ou bien le mal est survenu historiquement, ou bien c'est un ingrédient même de l'être. Et il appartient à la formule métaphysique des choses. Ou alors on essaie de prétendre qu'il n'existe pas, qu'il n'est qu'une illusion d'optique. Mais pour ceux qui reconnaissent la réalité du mal, ou bien il est historique comme effet d'un choix, comme fruit d'un usage de la liberté, ou bien alors, d'une manière ou d'une autre, il se rattache aux conditions métaphysiques du monde et de l'existence humaine. La proclamation historique du salut opéré dans la venue de Jésus-Christ signifie que le mal est dénoncé comme historique lui aussi, et ainsi injustifiable en termes d'équilibre métaphysique. Il n'a pas sa place dans l'harmonie de l'être. On ne peut pas le comprendre avec le reste. Et ainsi, l'indignation et la condamnation du mal peut être plus aiguë que, je crois, nulle part ailleurs dans les perspectives chrétiennes. Vous voyez l'importance de cette historicité. Paul à Athènes, l'apôtre Paul à Athènes, nous l'avons lu ensemble, après avoir obtenu l'attention de ses auditeurs en leur esquissant la vision du monde de la Bible. Alors ces philosophes épicuriens et stoïciens surtout, sans doute intéressés, ça correspondait au cheminement de leur pensée parfois, après avoir parlé du Dieu unique et du genre humain dans sa solidarité, dans le fait qu'il procède d'un seul principe, etc., provoque la division, c'est-à-dire la décision, pour ou contre le christianisme qu'il apporte, en parlant de l'événement de la résurrection. Vous voyez, c'est très très frappant. L'apôtre Paul brosse une sorte de vision du monde, il se fait écouter, mais le cœur de son message, et ce qui va déterminer le choix christianisme ou non, c'est l'annonce de cet événement particulier, la résurrection du Christ. Mais alors il avait aussi jugé nécessaire de tracer les grandes lignes de la vision du monde dans laquelle l'évangile de la résurrection peut faire valoir sa vérité. Ce n'est pas dans le vide, mais dans un monde tel qu'il le décrit. L'apôtre Paul déploie dans son discours une vision de Dieu et de l'homme dont je pense tous devront au moins reconnaître qu'elle ne manque pas de grandeur. Cette vision qu'il déploie dans son discours, affirmation du Dieu unique et universel en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, affirmation de l'homme comme celui que Dieu a créé dans un statut de privilège. Tout cela, c'est une vision spécifique que Paul ne juge pas négligeable au profit d'une simple annonce historique. Il y a l'annonce historique, c'est le cœur de l'affaire, mais il y a un cadre qui est nécessaire à la bonne appréciation et interprétation de l'événement historique lui-même. Le morcellement du réel en domaines autonomes, en compartiments séparés, on pourrait dire qu'au fond c'est du polythéisme. La pensée occidentale, je crois, dans sa tendance dominante, a été polythéiste. En séparant la raison d'un côté, la foi de l'autre, le sentiment, comme s'il pouvait y avoir des domaines radicalement séparés. C'est une traduction dans la mentalité, dans l'approche du monde, d'un principe pluraliste quant à l'absolu, donc finalement du polythéisme. Et la vision que l'apôtre Paul proclame d'un Dieu distinct du monde et pourtant unique duquel tout procède implique une vision du monde différente de celle de ceux qui ignorent un tel Dieu. Il n'est pas possible de concevoir les choses autrement. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut parler du miracle grec comme d'un temps d'ignorance dans ses discours. Vous vous rendez compte de la force d'une telle expression, Dieu qui en quelque sorte accepte de fermer les yeux sur ces temps d'ignorance, annonce à tous les hommes partout et à ces philosophes grecs qu'ils ont maintenant à se repentir. C'est bien la preuve que leur vision des choses n'était pas agréé de ce Dieu et qu'il exigeait une réformation de leur vision du monde. La vérité chrétienne ne peut pas s'ajouter comme un deuxième étage à l'édifice de la pensée chrétienne. C'est une autre vision globale qu'il faut substituer. Et c'est cela qui implique que sur une activité humaine aussi importante que l'art, il doit y avoir des perspectives chrétiennes spécifiques. S'il y a une vision du monde globale, tout procédant de ce Dieu unique Seigneur, il va y avoir sur l'œuvre d'art aussi un éclairage particulier. La première fonction de la lumière, peut-être, c'est de démasquer. Et le premier effet de l'éclairage de la vérité biblique, c'est, me semble-t-il, une critique de toute divinisation. Ce sera donc là le premier point concernant ces perspectives chrétiennes. Critique des auto-surestimations. Le Dieu biblique est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il ne tolère aucun rival, qu'il ne tolère aucun mensonge. Et en matière d'art, je crois qu'il y a eu un climat de divinisation que nous éprouvons encore en notre temps. Est-ce que cela date du romantisme ? En tout cas, dans le romantisme, avec le culte du génie, le panthéisme souvent avoué, il est assez clair qu'il y a comme une religion de l'art et de l'artiste. Beaucoup de nos contemporains perdent toute vigilance critique et deviennent singulièrement crédules, mais dans une crédulité qui s'apparente à la superstition devant ce qui prend l'étiquette art. Il suffit que quelqu'un qui se dise artiste et que quelques-uns ont reconnu tel propose, disons, n'importe quoi, pour que pas mal de nos contemporains viennent, disons, se prosterner, métaphoriquement, avec un respect sans oser élever la moindre parole interrogative à ce propos. Il me semble qu'il y a comme le sentiment que l'art est une sphère à part, où les règles du bon sens et de la morale quotidienne ne sauraient avoir aucun effet, qu'elles n'auraient pas le droit d'égratigner. Et beaucoup de penseurs, mais excellents même, attendent de l'art qu'il leur révèle le sens, que le mystère dernier de l'existence, ce soit l'art qui en fasse la médiation. On fait de l'artiste le prophète de son époque. Or, il me semble qu'un premier effet de l'éclairage par la vérité biblique, c'est la dénonciation de tout cela comme gonflé et finalement comme un égarement. J'ai ici un petit travail du professeur Rockmaker, professeur d'histoire de l'art à la faculté libre d'Amsterdam, qui a écrit le livre que vous connaissez sans doute sur l'art moderne et la mort d'une culture, qui a, je crois, un très très grand succès à l'heure actuelle parmi les étudiants français. J'ai ici un ouvrage où Rockmaker, en anglais, dénonce cette idéologie pseudo-religieuse, au fond, de l'artiste comme prophète, qui pourrait être le guide de l'évolution de la culture. Je crois que nous pouvons dire qu'il y a un ersatz du sacré dans l'art tel que beaucoup de modernes le reçoivent, que le témoignage biblique n'autorise pas. L'artiste, dans cette perspective chrétienne, doit d'abord se voir comme le frère de l'artisan. C'est l'artisan au carré, si vous voulez. Et on ne trouve pas dans les textes bibliques qui évoquent un travail artistique de distinction tranchée, il faut le reconnaître, entre l'habile artisan et l'artiste. Il est question dans le livre de l'Exode d'un certain Betsaléel qui certainement a fait des chefs-d'œuvre, qui a œuvré en artiste, mais et que Dieu a inspiré pour cela. Il est dit que Dieu l'a rempli de son esprit pour cette œuvre. Mais il ne nous est pas présenté de manière foncièrement différente des artistes, des habiles artisans avec lesquels il formait équipe. Et et de ceux qui ont fait d'autres éléments du tabernacle, de la tente sanctuaire du peuple d'Israël. Je crois qu'il est plus sobre de souligner que l'art est une forme du faire humain qui se rattache à la capacité de faire caractérise l'homme, homo faber si vous voulez. L'artiste ne se situe pas dans un domaine séparé. Et notre langue même, aux origines, le reconnaissait, reflétait ce jugement qui me paraît plus sobre. Vous le savez, le mot art n'était pas du tout réservé aux beaux-arts. Mais on parlait des arts mécaniques. On en garde encore le souvenir dans l'expression « les arts et métiers ». L'école des arts et métiers, sans parler de l'art de la médecine et l'art de la guerre, qui sont d'ailleurs fortement apparentés. Le mot art ne s'employait pas seulement pour ce qu'on spécifiait les beaux-arts. Alors ça, c'est, je dirais, un premier aspect, perspective chrétienne, pas de gonflement excessif, pas de surestimation pseudo-religieuse. Le second point précise le premier. Nous restons encore plutôt du côté du négatif. Il faut commencer par déblayer, pas avant de pouvoir construire. La divinisation dont nous avons parlé jusqu'à présent concerne l'art dans son rapport à la culture. En quelque sorte, c'est le rapport externe. Mais dans l'art considéré de façon plus interne, il me semble qu'on décèle des traces de cette fausse divinisation. Le propre de Dieu, c'est qu'il est de soi, par soi, pour soi. Il est sa propre origine, sa propre règle, sa propre fin. Voilà ce qui caractérise le Dieu, l'absolu. Eh bien, l'art glisse du côté de la divinisation quand il se croit, lui aussi, de soi, par soi, pour soi. Et c'est ce qu'il tente à faire, plus d'une fois. L'usage du verbe « créer » et du mot « création », du mot « créateur » en matière d'art me semble déjà un piège. Il est éloquent que dans la Bible, il soit strictement réservé à Dieu et à l'œuvre de Dieu. Au sens propre et fort, il n'y a de création que lorsque c'est Dieu qui intervient. Et la créature ne peut pas se prétendre créatrice. L'homme ne vient qu'en seconde position. Et même sans dégrader le mot « créer » jusqu'à l'employer pour les productions de la couture et autres fabrications, je crois que nous devons émettre des réserves à propos de son usage pour l'œuvre des artistes. Il me semble assez éloquent d'ailleurs que pour exalter la création artistique, très souvent, ceux qui célèbrent comme divin l'art aboutissent à dissoudre l'homme dans un courant impersonnel. L'artiste n'est plus que le médium, une espèce de fluide qui se manifeste en lui, mais c'est au fond une dissolution de l'homme pour, comme rançon d'une exaltation excessive. L'homme créateur, finalement, n'est plus là qu'un phénomène d'un courant impersonnel. Ou bien que pour exalter encore l'art comme création divine, on finisse par le transformer en un jeu de hasard. C'est le hasard qui devient idolâtré, et certaines œuvres d'art se glorifient d'être le produit de combinaisons qui se sont produites d'elles-mêmes. Ça me paraît une évolution significative. Il suit du fait que l'artiste ne tire pas tout de son propre fond comme un créateur, mais qu'il vient toujours en second, qu'il est en situation de réponse, qu'il ne peut pas s'affranchir davantage que l'artisan de toute règle. Il demeure soumis aux lois que Dieu a instituées. Il ne travaille pas dans le vide en inventant radicalement du neuf comme le serait un pur créateur. il est soumis à des lois. Pour la musique, par exemple, il est intéressant de suivre, un des étudiants du séminaire l'avait fait, certaines théories psychanalytiques sur le rapport du rythme au fonctionnement biologique élémentaire. Et peut-être même, un peu excessif, mais à des choses comme la succion du sein chez l'enfant, les rythmes musicaux pourraient n'être pas sans rapport avec des structures de la vie humaine telle qu'elle a été réglée par le Créateur, et que l'on casse les rythmes ou qu'on les respecte, on reste toujours soumis, pour les effets que l'on obtient, à ces lois. Les symétries et du même coup les dissymétries ne sont pas sans rapport dans l'œuvre d'un artiste qui produit quelque chose à voir, peintre ou sculpteur, sans rapport avec les structures mêmes de l'intelligence telles qu'elle s'est développée dans le monde de Dieu, lorsqu'elle a acquis précisément le sens des symétries dans l'espace que Dieu a fait. Nous avons des lois inéluctablement. L'art imite la nature reste toujours vrai. Rodin a été jusqu'à dire que l'artiste ne peut rien faire d'autre que de copier la nature. Le mot copier est peut-être un peu trop brutal, mais en un sens cette brutalité peut être salutaire. Rappeler cette situation de dépendance à l'égard de la règle de la nature, c'est-à-dire d'un Dieu auteur de la nature. Et je dois dire que mon admiration pour Sassandra va en particulier à sa rigueur dans son travail. Vous avez pu l'apprécier au métier qu'atteste la composition de tous ses tableaux. L'honnêteté, la rigueur avec laquelle il se soumet à ces lois qui régissent notre sens de la vue, de l'appréciation, des arrangements. Il y a là une honnêteté qui se manifeste encore dans sa manière de lutter avec le matériau et à respecter les lois propres aux matériaux qu'il utilise, comme dans le cas de l'Apocalypse, les collages dont il s'est imposé la discipline. C'est-à-dire que c'est une illustration de cette vérité qui me semble nécessaire d'affirmer dans des perspectives chrétiennes, que l'artiste reste soumis à des règles. Et la fin de l'œuvre ne saurait pas non plus résider en elle-même. Au sens strict, il n'y a pas d'art pour l'art dans des perspectives chrétiennes. Non pas l'art pour l'art, il n'est pas sa propre fin. L'œuvre de l'artiste, comme toute activité de l'homme, ne peut avoir qu'une seule fin dernière, la glorification de son Créateur. Vous le savez, on pourrait dire ces deux frères ennemis qui ont étudié dans le même collège, d'ailleurs du XVIe siècle, Calvin et Ignace de Loyola ont chacun choisi une devise qui évoque la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu seul, pour Calvin, pour la plus grande gloire de Dieu, pour Saint Ignace. Je pense que cette rencontre est intéressante et qu'il ne s'agit pas d'un accident de l'histoire lié à une situation particulière du XVIe siècle, qu'il y a là un respect de ce qui est impliqué dans la révélation du Dieu biblique, de ce Dieu duquel tout dépend, et auquel tout doit revenir comme tribut de gloire, ce qui est le bien de la créature. La glorification de Dieu, c'est la diffusion de son bien, c'est le resplendissement de sa beauté. D'ailleurs, nous allons, je pense, en dire un mot bientôt. Donc, éviter toute divinisation de l'art ou de l'artiste dans le rapport à la culture, ou de l'art qui serait compris faussement comme une création pure, affranchie de toute règle. Mais cela est encore négatif. Qu'est-ce qui différencie l'art, au sens moderne, les beaux-arts, des arts mécaniques? Quel est le propre de cet art dans les perspectives chrétiennes? Il me semble indéniable que l'art se différencie par une originalité une liberté, une gratuité que l'œuvre ordinaire ne connaît pas. L'œuvre ordinaire de l'homme est essentiellement répétitive et utilitaire. Elle vient combler des besoins élémentaires. Alors que l'art est un faire extraordinaire. Il me semble qu'on est obligé d'accepter ce point. Or, la vision biblique de l'homme me semble donner son fondement à cette activité extraordinaire, déliée des contraintes du quotidien. Qu'est-ce qui, dans la vision biblique de l'homme, permet de donner sa place à cette activité artistique ? Si l'homme reste radicalement dépendant, sa dépendance est privilégiée. Et c'est dans ce privilège qui caractérise sa dépendance que va se situer, me semble-t-il, la possibilité de l'art. L'apôtre Paul le dit aux Athéniens, « De lui, nous sommes la race. » Il emploie un langage qu'ils sont capables de comprendre, il cite en fait un poète stoïcien, mais il exprime par là une doctrine biblique. Il ne comprend pas au sens panthéiste, mais au sens du livre de la Genèse, qui souligne que l'homme a été créé en image de Dieu, c'est-à-dire élevé au-dessus du monde visible, dans une réelle liberté, dans le vis-à-vis responsable par rapport à Dieu, de telle sorte que l'homme peut être dit doué d'une transcendance créaturelle. Ce n'est pas la transcendance du Créateur, mais c'est une transcendance qui l'élève au-dessus du monde visible, le fait décoller du phénomène, si vous voulez. C'est un privilège qui implique une liberté authentique, même si elle demeure dans la dépendance. Dieu veut des fils et non pas des esclaves. Voilà ce que veut dire, je crois, cette création en image de Dieu. De lui, nous sommes la race. Et l'imitation de Dieu à laquelle l'homme est appelé, c'est l'imitation du Fils. Le Fils imite son Père, mais non pas servilement. On pourrait dire que Dieu étant absolument original, l'homme créé à son image sera dans son ordre original, d'une originalité qui ne sera pas absolue, mais qui sera réelle, et qui le distinguera de toutes les autres créatures. L'homme redira la parole de Dieu après lui, dans son propre langage. Et ce ne sera pas la récitation d'un perroquet. Ce sera une parole responsable de la part de l'homme, qui parlera en second, selon que Dieu lui aura parlé, mais qui parlera vraiment. Je dirais que si l'homme ne peut pas être créateur au sens strict, il lui est donné d'être para-créateur. C'est l'expression que je voudrais forger pour évoquer ce privilège qui lui est donné de liberté dans l'œuvre. On pourrait dire que, en image de Dieu, du Dieu créateur, l'homme reçoit le privilège de le refléter de deux manières. Et notre langage l'a retenu, en tout cas, pour une des deux. L'homme est procréateur. Il lui est donné de faire surgir des personnes, le mystère de la personne. En quelque sorte, l'homme en est dépositaire dans le don de la procréation. Et le terme est très très bien choisi pour évoquer la dignité de la multiplication humaine, de la reproduction humaine, puisqu'il s'agit de l'ordre des personnes, comme une image de la création divine. L'homme procréateur et l'homme paracréateur dans son œuvre. Dans le récit de la Genèse, qui situe l'homme, il y a un thème qui me semble bien marqué, ce privilège filial de l'homme qui est élevé au-dessus du monde et qui est fait pour une communion avec son Père céleste. C'est le thème du septième jour, du sabbat. L'homme va travailler en imitateur de Dieu, dans le monde que Dieu a créé, un imitateur original. Et pour bien montrer que l'homme n'est pas exhaustivement interprété par son rapport à la terre et le travail qui correspond à la satisfaction des besoins
de cet homme comme être terrestre. Dieu dispose ainsi son temps, le temps de l'homme. Il travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera un jour de repos, sanctifié pour Dieu, donc en relation avec Dieu. En quelque sorte, l'institution du jour de repos est comme une façon de dire l'homme ne doit pas s'absorber totalement dans le travail utilitaire, parce que l'homme n'est pas fait seulement pour la terre. Il en décolle, il est fait dans cette transcendance créaturelle dont je parlais tout à l'heure, pour la communion de fils avec son père. Dans le temps de l'homme, il y a donc ce repos du sabbat qui marque la liberté filiale qui lui est donnée. Or, je suggérerais que l'art est dans l'activité de l'homme ce qui correspond au sabbat, dans son temps, ce repos-là. L'art, c'est cette activité libre. Sa liberté lui donne une certaine proximité avec le jeu, d'ailleurs. Cette activité libre où l'homme n'est plus en train de satisfaire des besoins immédiatement exigeants pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Mais manifeste sa liberté de fils créaturel de Dieu, ce privilège d'image de Dieu qui lui est donné. Le repos sabbatique a été, hélas, mal interprété par la tradition du rabbinisme pharisien et a été compris comme une stricte paralysie de l'activité humaine. En tout cas, trop souvent, et Jésus a dû se lancer dans une controverse à cet égard, montrant que Dieu, dont le repos est archétypal, fondateur pour le repos qu'il assigne à l'homme, et reste actif, il agit dans son repos. Il a achevé son œuvre de créateur, mais il continue d'agir, et ainsi le repos qu'il veut pour l'homme à son image, et dans la communion avec lui, n'est pas une espèce de ligotage de l'homme, mais une libération de son activité, qui ne sera plus servile, comme hélas le travail quotidien l'est toujours un peu, mais qui sera libre. Vous voyez, il me semble que nous pouvons trouver dans cette vision biblique de l'homme le fondement pour l'activité artistique. La soumission aux lois de la création ne signifie dans cette perspective aucune reproduction machinale. Il ne s'agit pas, lorsqu'on parle d'imiter la nature ou Dieu dans son œuvre de création, d'exiger la reproduction photographique, et encore la photographie, peut-être plus qu'une photographie. Il ne s'agit pas de prêcher à l'art l'obligation de reproduire exactement ce qui a pu être vu. Ces lois dont je parlais tout à l'heure, l'obéissance peut en être d'une étonnante liberté. Elle se prête à des combinaisons toujours variées. Et j'affirmerai que l'art abstrait ne s'abstrait pas de la création de Dieu. Ce sont toujours des lois que Dieu a instituées, auxquelles l'artiste peut et doit se soumettre, même dans le domaine que l'on appelle l'art abstrait. Donc je préviens ici tout malentendu par rapport à ce que j'ai dit. Et il me semble qu'on peut, en se rappelant que la finalité dernière, c'est celle de la gloire de Dieu, parler d'une finalité intermédiaire, la beauté, pour cette œuvre d'art, cette œuvre de liberté. Jacques Maritain analyse la notion de beauté en y distinguant 3 ingrédients, et je pense que c'est très suggestif et conforme à la pensée biblique: l'intégrité, la proportion et l'éclat. La beauté est un reflet de cette gloire que Dieu fait resplendir. Le psaume 50 dit de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. La beauté de l'œuvre d'art, œuvre filiale, est comme un reflet de la gloire que Dieu fait resplendir. Alors il peut y avoir une beauté terrible d'ailleurs. La beauté n'est pas nécessairement sucrée. Il y a une beauté que Dieu célèbre dans le livre de Job. du Léviathan et de Behemoth, qui est une beauté terrifiante. Et le Cantique des Cantiques parle aussi de la beauté de la femme aimée, la belle comme une troupe sous les bannières. Il y a une beauté qui parfois peut aussi terrifier. Lorsque je parle donc de beauté comme d'une fin intermédiaire pour l'œuvre d'art, je ne veux pas dire qu'elle doit s'en tenir à des sujets faciles qui feront doucement rêver. Pas forcément, mais je pense que l'artiste, dans des perspectives chrétiennes, ne peut pas ne pas chercher la beauté comme un reflet de cette lumière glorieuse que Dieu fait lui-même resplendir. Alors nous parlons de l'art tel qu'il devrait être. Dans les perspectives chrétiennes, à cause de la place que tient le message historique de l'Évangile et la dénonciation du péché qui s'y associe, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois qu'il faut souligner que l'art n'est pas toujours ce qu'il devrait être. Quand le vrai Dieu n'est pas connu, toute l'existence de l'homme en est altérée, perd de son intégrité, de sa proportion et de son éclat, et il en est ainsi aussi de l'art de l'homme. Et il y a comme forme particulière du péché, la laideur des arts mensongers. Il y a le conservatisme paresseux qui correspond à la composante d'inertie du péché, et le révolutionnarisme stérile qui correspond à la composante de révolte du péché. Il y a la prostitution du travail de certains artistes. Il y a aussi un amour de la laideur. Jean Brun, le philosophe de Dijon, cite dans Le Retour de Dionysos, un livre du grand psychiatre Gabriel Deshaies, sur l'esthétique du pathologique. Il y a, je crois, à cause de la corruption que la révolte de l'homme a engendré dans son existence, un amour du laid qui existe. Il y a aussi une fureur de défaire que j'interprète comme le paroxysme de la prétention à créer pour l'homme. Lorsque l'artiste perçoit qu'il ne peut pas créer parce qu'il est dans cette seconde position et qu'il ne pourra qu'être paracréateur, s'il refuse ce statut second, alors il peut se tourner vers la destruction, pensant que s'il défait, au moins là, il sera premier. Ça semblera m'a passé, il y a déjà pas mal de mois, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut que je lui rende le texte des pages qui analysent l'interprétation de Picasso par Malraux, André Malraux. Et cette interprétation est au fond très très sévère, très dure, tout en saluant le génie. Malraux voit en Picasso celui qui a choisi de défaire et de détruire. Je ne sais pas dans quelle mesure cette interprétation est satisfaisante. Malraux n'est pas le premier venu pour interpréter un autre génie du XXe siècle. Mais moi, je n'ai pas la compétence. Mais il me semble que l'interprétation mérite d'être entendue et qu'il y a bien, chez plusieurs, une fureur de défaire que je ne peux pas analyser autrement que comme un effet de la corruption qu'engendre l'aliénation à l'égard de Dieu. D'ailleurs, c'est un peu tout le thème du livre de Ruckmacher, n'est-ce pas, L'art moderne et la mort d'une culture. Dans ces conditions, il faut la guérison par la grâce, ou au moins les effets de cette grâce préparatoire que Dieu répand même sur ceux qui l'ignorent, qui calme si elle ne guérit pas, pour que l'artiste puisse paracréer dans la liberté filiale, dans l'allégresse du repos de communion avec Dieu. Ainsi, il me semble que nous pouvons situer l'entreprise artistique dans des perspectives chrétiennes. Mais il reste une question, une grande question, donc je ne m'en suis pas encore à ma conclusion, une grande question à laquelle il n'est pas facile de répondre et que pourtant je ne peux pas ignorer. Cette question, c'est: l'art est-il un langage ? Sans aucun doute, beaucoup d'œuvres d'art se veulent l'expression d'une vision des choses, certaines même se veulent des allégories, plusieurs font des discours, et certaines nous déchirent comme des cris. Il y a toute une critique, ou même il y en a plus d'une, qui se base sur la recherche des sens, des messages, parfois inconscients, mais qui commandent forme et fond dans les œuvres d'art. C'est le cas de la critique d'art telle que Rockmacher la développe dans ce livre, et d'un point de vue chrétien. Et c'est le cas aussi, par exemple, dans la critique de certains marxistes, ou de plusieurs marxistes. J'ai surtout été instruit par ce qu'a pu écrire Lucien Goldman à ce propos, qui décrypte les œuvres d'art comme la traduction codée de vision du monde. Et il me semble qu'on pourrait livrer à l'appui de cette pensée que finalement tout art est un langage et que toute œuvre d'art tient un discours secret, on pourrait évoquer l'origine religieuse de l'art, ce qu'on pourrait appeler l'enfance de l'art dans l'histoire de l'humanité. Avant les tableaux, qu'y a-t-il ? Les icônes, et avant les icônes, les idoles. Or, il s'agit, avec les icônes et les idoles, de canaliser le sacré, de dessiner au fond les lignes de l'être dans les êtres, de faire part, au bout du compte, d'une certaine vision du monde. Ça me paraît indéniable. Nous sommes là en face d'une interprétation de la réalité globale et dont on propose comme une esquisse. Jean Brun, encore dans un autre livre, dans son livre Les Vagabonds de l'Occident, dit au fond à peu près la même chose en posant que l'œuvre d'art exprime finiment l'infini. L'œuvre d'art, dit-il, exprime finiment l'infini. Ainsi donc, il semble que nous puissions dire que toute œuvre d'art a une parole. Mais des objections surgissent. C'est pourquoi je vous ai prudemment proposé mon dernier point comme une question. Je n'en resterai pas strictement à la question, mais des objections sérieuses surgissent. Il y a d'abord les contradictions des exégètes. Lorsque les interprètes passent devant les mêmes œuvres d'art, ils semblent y entendre des paroles bien différentes. Alors, il semble qu'il y ait parfois surimposition à l'intention de l'auteur, et il est un peu facile de dire que l'intention était inconsciente seulement. Je me rappelle même à propos de Rockmacher, que j'estime beaucoup, une remarque de John Stott, auteur de livres d'ailleurs que vous avez, je pense, en vente au comptoir ici, le pasteur John Stott de Londres, et après une visite au Rijksmuseum d'Amsterdam avec Rockmacher, un groupe, et il m'a dit, un peu dogmatique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été convaincu par toutes les interprétations, par tous les commentaires que faisait Rockmacher devant les tableaux successifs. Parfois, même dans son livre, ça paraît un peu imposé à l'auteur. Et je sais que ça s'entra, je le mets beaucoup en cause, c'est l'occasion, hein. Et puis il est là, donc il va pouvoir intervenir tout à l'heure. Il n'est pas tout à fait d'accord avec certaines interprétations de Rockmacher dans ce livre important, le sens qui est donné à certaines œuvres de Picasso, par exemple. Il me semble qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a certaines œuvres d'art où l'élément de message, vision du monde, paraît bien loin des œuvres d'art décoratives. Mais enfin, de quel droit les exclure, n'est-ce pas ? Où il semble que ce soit le seul plaisir de l'engendrement des formes qui soit en cause. Et où il semble bien un peu abusif de chercher une signification au-delà. Il me semble que, si vous voulez, plus philosophiquement, on est obligé de dire, attention, il ne faut pas confondre purement et simplement les catégories de l'œuvre et de la parole. L'œuvre d'art est suprêmement l'œuvre, puisqu'elle c'est l'œuvre libre. Mais œuvre et parole doivent se distinguer.
Et on pourrait tirer argument encore de l'autre enfance de l'art, qu'on pourrait trouver, disons, dans le devenir de l'enfant même. Ce serait l'art de l'enfance, si vous voulez. L'art a cette autre source, le graffiti. Est-ce que l'impulsion qui fait que l'enfant, et peut-être la grande personne encore, le grand enfant, lorsqu'il y a une vitre pleine de buée, trace un trait, une boucle, cette impulsion à faire sortir une forme, est-ce qu'elle est tout à fait étrangère à l'impulsion de l'artiste? Il ne me semble pas. Il me semble que nous n'avons pas le droit de dire ça, ou bien, si vous voulez, la comptine, le hamstramgram. Est-ce qu'il n'y a pas là une enfance de la poésie ou de la musique? Il me semble que je ne peux pas l'exclure. Or, trouverons-nous une vision du monde à ce niveau-là? Vous voyez comment les objections surgissent au premier plaidoyer. Alors comment conclure sur cette question? Après avoir hésité, après avoir pesé comme j'ai pu, il me semble quand même que je verse du côté de la première interprétation, qui me semble que je dois dire qu'aucune œuvre n'est sans signification, même l'œuvre ordinaire, utilitaire. Justement à cause de cette unicité de Dieu qui crée un univers et pas un multivers, comme on l'a dit, qui crée un monde où toutes les choses sont liées, de telle sorte que toute œuvre, même banale, renvoie au reste de la réalité et suppose donc ultimement une vision du monde. On ne peut pas totalement détacher. Alors, si je veux préserver la dualité de l'œuvre et de la parole, il me semble que je dois dire que c'est indirectement que tout auteur d'œuvre dit quelque chose. Indirectement, il ne peut pas l'empêcher, car tout est signe, tout renvoie au-delà de soi-même. Et dans le cas de l'œuvre libre, qui n'a pas comme signification de renvoyer à un besoin qu'elle comble, parce qu'évidemment c'est la signification première de l'objet que produira l'artisan, quand il s'agit de l'œuvre libre, alors il me semble que la gratuité libère inévitablement des significations symboliques, des résonances nombreuses. Il est impossible que l'œuvre d'art ne dise absolument rien. Le but n'est pas une prédication, le but n'est pas un discours, le but est la beauté, et la beauté ultimement pour la gloire de Dieu dans les perspectives chrétiennes. Mais il y aura toujours quelque chose d'indirectement dit. Seulement, les moyens d'expression sont tellement variés. Paul Tillich, théologien libéral d'un christianisme douteux, mais qui est un bon analyste de la culture, Paul Tillich souligne qu'on peut analyser en trois termes l'œuvre d'art, en parlant du sujet, de la forme et du style. Et il développe certains critères. Les moyens d'expression sont tellement variés que l'exégèse est difficile, et j'emploie là une litote. Les résonances symboliques qui vont libérer ce message indirect sont tellement personnelles et souvent équivoques que je crois que l'exégèse d'une œuvre particulière sera toujours difficile. Surtout qu'il faut encore tenir compte de ce facteur de complexité supplémentaire qu'est la relation à une tradition. Une œuvre prend son sens en fonction de toutes les œuvres qui l'ont précédée. Et il y aura des attestations qui ne seront compréhensibles que par la pensée de l'œuvre à partir de laquelle l'artiste a pris position. Alors pour interpréter, vous vous rendez compte du nombre des facteurs qu'il faudrait pouvoir réunir et avoir lucidement présent à l'esprit. Et la chose restera toujours très difficilement
décidable. Comment trancher de façon absolument décisive entre une dénonciation du mal, dans un tableau par exemple, et je crois que la question se pose à certains de ceux qui viennent ici, entre la dénonciation du mal et puis une complaisance dans le spectacle du mal. L'artiste peut présenter le mal dans sa hideur, mais le présenter encore avec beauté terrifiante, parce qu'il fera une composition selon les lois de la création divine. Mais il peut y avoir une dénonciation du mal, mais il peut y avoir aussi une complaisance à l'égard de ce mal par lequel on se laisse fasciner. Je crois, personnellement, parce que je le connais bien, que l'œuvre de Sassandra doit s'interpréter comme dénonciation. Et c'est ainsi que je la perçois. Mais je comprends que, étant donné les symboliques personnelles de ceux qui perçoivent tout cela, certains aient une impression différente. Vous voyez la difficulté que l'on a. Il y a bien un message, il y a bien une vision du monde qui est impliquée. Mais finalement, pour trancher entre les interprétations, il faut une compétence sans doute rare, ou bien alors peut-être un peu de précipitation. Et quel sera le message, alors finalement, que le peintre chrétien, celui qui voudra œuvrer dans des perspectives chrétiennes, fera passer indirectement dans son œuvre, un Rembrandt ou un Jean-Sébastien Bach? Je ne veux pas développer trop par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais ce que je voudrais souligner, c'est que les catégories de pessimisme et d'optimisme ne sont pas vraiment adéquates. En un sens, le peintre chrétien ne pourra être ni pessimiste, ni optimiste. Ou s'il l'est, il sera les deux radicalement. Le peintre chrétien, dans les perspectives chrétiennes, sera sans illusion sur le mal. Il repoussera l'optimisme courant. Ce ne sera pas une peinture à l'eau de rose. Le mal, la Bible ne cesse de le dénoncer contre tous ceux qui s'imaginent que finalement ce ne serait qu'une imperfection superficielle ou encore le moyen du progrès dialectique. Elle désigne le mal comme le scandale duquel la condamnation ne doit pas être émoussée. Donc, dans ce sens-là, pessimisme, si on veut, et dénonciation du mal, il est haïssable radicalement. Mais en même temps, ce n'est pas le pessimisme métaphysique de certains et qui aboutit dans un nihilisme ou une célébration de l'absurdité. Le peintre chrétien sait que le mal est survenu dans une création qui est belle et bonne, parce qu'elle vient du Dieu de paix, de justice, de sagesse qu'il connaît. Et il sait que l'événement Jésus-Christ et de sa résurrection lui assure la certitude de la réconciliation. Ce mal n'est pas un ingrédient métaphysique dont il faudrait, pour se débarrasser, quitter le monde, dont pour se débarrasser, il faudrait la suppression de tout le contexte. C'est l'accident par excellence, l'usage nocif que l'homme a fait de sa liberté, et une rédemption est donc possible.